Bienvenue dans Tribulation et Résilience, le podcast qui explore le fonctionnement humain avec Katia Jouvin. Je suis Katia et avant d'exercer en tant que psychopraticienne ou coach, j'ai vécu sous stress chronique sans en avoir conscience. J'ai trouvé la voie vers une vie plus calme et sereine en donnant un sens à mes mots MAX, en me reconnectant à mes sensations corporelles et en laissant mon mental au second plan. Tribulation et Résilience est le podcast dédié à ceux et celles qui se sentent emportés par la course effrénée de la vie moderne, cherchant des réponses pour rétablir l'équilibre et la sérénité dans leur quotidien, conscients que les solutions résident à l'intérieur d'eux. Alors, si tu aspires à reprendre les commandes pour vivre de manière plus équilibrée et épanouie, ce podcast est pour toi. Je te retrouve un mercredi sur deux, en solo ou accompagné, pour explorer des pistes te permettant d'accéder à plus de calme et de sécurité à l'intérieur. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices en quête d'harmonie et de bien-être intérieur. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Valérie Fayol, une experte en Feng Shui, lecture énergétique et nettoyage énergétique de lieux. Elle se définit comme une home energizer et dans cet épisode, nous allons explorer comment notre intérieur, notre maison, peut influencer notre bien-être intérieur. Valérie partagera ses connaissances sur la création d'espaces énergétiquement équilibrés et nous guidera à travers l'impact profond que notre environnement peut avoir sur notre état interne. Alors, préparez-vous à découvrir comment transformer votre maison en un sanctuaire de paix et de vitalité. Bienvenue Valérie, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast.
Bonjour Katia, merci pour ton invitation. Moi, je suis ravie d'être là aussi. Alors, j'ai une voix un petit peu enrouée. J'espère que ce sera OK pour tes auditeurs. Je sors d'un gros rhume, mais avec joie en tout cas de venir partager aujourd'hui tout ce qui concerne notre maison et notre bien-être au sein de notre maison.
Écoute, ta voix, pour moi, ça passe crème, comme on dit. Donc, parfait. J'ai une première question pour toi, Valérie. C'est comment est-ce que tu es devenue passionnée, justement, par le Feng Shui et toutes les pratiques énergétiques pour les espaces intérieurs?
Alors, écoute, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est une histoire, j'ai envie de dire, une histoire de vie, presque. J'ai toujours été sensible à nos maisons. J'ai beaucoup déménagé quand j'étais enfant. On changeait très souvent de maison et donc j'ai développé à ce moment-là une espèce de sensibilité aux lieux, en tout cas une conscience pour les lieux qui nous accueillaient. Je me suis vite rendu compte en fait que quel que soit l'endroit dans lequel on emménageait en famille, il pouvait s'y déployer de jolies choses comme des choses plus douloureuses, mais que en tout cas dans chacun de ces lieux, il y avait un potentiel. Il y avait un potentiel énorme et que c'était à nous d'en faire quelque chose. Donc ça, c'était vraiment une conscience que j'avais quand j'étais enfant. Et puis après, la vie allant, j'ai pendant 25 ans été urbaniste. Donc j'ai travaillé vraiment sur la ville, sur l'habitat aussi, sur toutes ces questions-là et sur la façon dont l'humain investit l'espace, à la fois dans les maisons, mais aussi dans l'espace public. Et donc, sans m'en rendre compte, en fait, parce que c'était pas des choix, j'ai envie de dire, réfléchis, où je n'avais pas conscience à ce moment-là que tout ça était très lié avec nos habitats, très lié avec nos maisons. Mais de fait, quand je regarde en arrière, je me dis tout ça est tout à fait cohérent. Et puis un jour, j'ai ouvert la boîte du Feng Shui. Alors, c'est arrivé assez tard, en fait, dans ma vie, de façon assez étonnante. J'avais déjà une connaissance, on va dire, un peu poussée des médecines chinoises que j'utilisais pour moi, dans ma vie personnelle, et une approche énergétique aussi. Mais j'ai envie de dire que dans mon milieu d'urbaniste, c'était très délicat de venir parler d'énergie. Ce n'était pas du tout le vocabulaire ou ni même la pensée qui était recevable ou reçue par les personnes avec qui je travaillais. Je travaillais beaucoup avec des collectivités, avec des institutions. Et donc, je sentais que j'étais de plus en plus en dissonance, en fait, entre la pratique de mon métier d'urbaniste et cette découverte de la dimension énergétique de l'habitat. Et puis un jour, en 2017, j'ai décidé de sauter le pas, vraiment, et d'embrasser pleinement ce nouveau métier de consultante en Feng Shui. Et donc, je suis devenue experte dans le domaine aussi ensuite, vraiment, et de me consacrer sur cette dimension-là énergétique et de travailler directement avec les particuliers, avec les individus, voilà, sur leur lieu de vie. Donc, ça a été tout un chemin, tout un parcours. C'est pas sorti du chapeau comme ça d'un jour un seul. Et je me rends compte aujourd'hui à quel point, oui, tout ça est cohérent et tout ça est un chemin de vie vraiment. Aujourd'hui, bien sûr, mon métier d'urbaniste me sert chaque jour dans mon approche de l'habitat. Mais c'est vraiment la dimension énergétique qui a pris le dessus. Je comprends tellement de choses que je ne comprenais pas avec mes seuls outils d'urbanisme, en fait, mes outils, j'ai envie de dire, du mental, mes outils cartésiens. Et en y amenant la dimension énergétique, la lecture énergétique de l'espace, en fait, j'ai vraiment ouvert un espace de compréhension du monde et de l'environnement qui est tellement plus grand, tellement plus vaste, tellement plus riche aussi. Voilà, et donc j'ai pu aussi, dans ma pratique du feng shui, complètement implémenter cette sensibilité que j'avais développée quand j'étais enfant, cette capacité à connecter au lieu et à sentir, à percevoir tout ce qui se passe autour de moi. Donc aujourd'hui, quand je rentre dans une maison, je sens avec tous mes sens, y compris mon sixième sens, tout ce qui s'y déroule et toute l'énergie qui se déploie à cet endroit-là. Donc voilà, c'est un vrai cadeau que je me suis fait, en tout cas, et j'espère que c'est un cadeau aussi pour les personnes que j'accompagne aujourd'hui.
À ne pas en douter, ça c'est sûr. Justement, Valérie, est-ce que tu peux expliquer pour nos auditeurs et nos auditrices qui pourraient être un peu moins familiers avec ces pratiques, juste une brève explication, tu vois, de ce qu'est le Feng Shui, en quoi consiste la lecture énergétique des lieux et peut-être ce qu'est le nettoyage énergétique?
Ok. Alors, dans le feng shui, c'est une discipline, c'est un art ancestral d'origine chinoise. Alors, il y a plein de branches qui viennent, qui ont aussi leur source dans d'autres pays, en général des pays d'Asie. Le feng shui, c'est cette discipline qui va nous apprendre, ou en tout cas nous indiquer comment nous placer dans les lieux, de façon à ce que l'énergie des lieux dans lesquels on vit et dans lesquels on travaille aussi, les lieux dans lesquels on passe du temps, viennent nous soutenir pour nous amener de la vitalité, pour nous donner vraiment cet élan de vie dont on a besoin chaque jour. Donc c'est un art subtil qui va être plutôt, où on va travailler plutôt sur le positionnement des individus dans l'espace. Ça, c'est vraiment proprement parlé concernant le feng shui. Concernant la dimension énergétique, en fait, il faut bien se rendre compte que tout est énergie. Nous sommes nous-mêmes un flux d'énergie constant et tout ce qui nous entoure également, et y compris ce qui nous semble inerte, c'est-à-dire les objets, mais aussi les murs qui nous entourent. Les maisons dans lesquelles on se trouve, les maisons dans lesquelles on vit, dégagent une vibration, une fréquence énergétique. Elles émettent une fréquence énergétique. Et donc nous, quand on vit dans ces lieux-là en permanence, on va être en contact en continu avec cette fréquence énergétique. Et donc elle va venir nous impacter. Et inversement, nous-mêmes, on va déployer aussi notre propre énergie dans l'espace qui nous entoure. Donc il y a une interaction constante avec tout ce qui nous entoure. Que ce soit d'ailleurs des lieux de passage, hein, ça nous est tous arrivé un jour de rentrer dans une maison ou de rentrer dans un édifice, dans un bâtiment, et de nous sentir soit extrêmement bien, soit au contraire extrêmement mal. On ne sait pas pourquoi. Notre mental n'a pas de réponse à ça, c'est-à-dire que objectivement, tout a l'air d'aller bien, mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui dit que ça va pas du tout. Et donc c'est vraiment à ce moment-là, en fait, ce sont nos capteurs, notre sixième sens, ce sont ni nos yeux, ni nos oreilles, ni notre odorat qui nous permet d'avoir l'information, c'est bien notre sixième sens qui va chercher des informations à un niveau plus subtil et qui nous dit qu'à cet endroit-là, l'énergie qui se déploie des murs n'est pas OK pour nous. Donc cette dimension énergétique, elle est là en continu. Donc moi, quand je vais lire la fréquence énergétique des lieux, j'ai envie de dire, c'est presque indépendamment du feng shui lui-même, hein, qui est une discipline à part entière, mais il y a cette dimension-là de quelle est la fréquence qui se dégage de ce lieu-là, et qu'est-ce que ce lieu-là vient nous dire, qu'est-ce qu'il a à raconter comme histoire, et du coup, est-ce que c'est OK pour moi, pour toi, pour d'autres, de venir y vivre au quotidien, de venir y travailler, d'y venir élever nos enfants, d'y venir déployer nos projets, etc. Est-ce que ce lieu-là va être un soutien pour moi, va être un partenaire, ou alors est-ce que ça va être un boulet au pied, est-ce que ça va être un endroit qui va venir me tirer vers le bas et qui va m'empêcher de déployer mes projets? Donc ça, c'est vraiment pour la lecture énergétique. Et puis bien sûr, quand des énergies sont, des lieux sont sur des énergies, des fréquences qui sont basses, ça peut être parce qu'ils sont comme ça par nature ou parce qu'il s'y est déployé des événements lourds, on va dire, hein, des événements chaotiques, douloureux, etc. À ce moment-là, on peut venir aussi remettre du baume, ce qu'on fait avec un nettoyage énergétique, mais c'est comme remettre de la douceur là où il y avait de la crispation, là où il y avait des tensions, là où il y avait une énergie qui est un petit peu piquante. Mais si c'est pas vraiment l'essence même du lieu, on peut venir remettre de la douceur pour qu'on puisse encore une fois vivre dans un endroit qui va être serein, qui va être apaisé et qui va être porteur pour nous. Un nettoyage énergétique, ça va être qui après des événements lourds comme une convalescence, un deuil, mais aussi un cambriolage, par exemple, ça peut être requis au moment où on entre dans un nouveau logement, tout simplement, pour faire table rase et puis venir déployer notre propre énergie et table rase du passé. Ça peut être après des travaux, quand on a fait des travaux lourds dans notre maison, quand il y a eu des disputes, des tensions, après les fêtes de Noël aussi, par exemple, ça peut être intéressant de faire un nettoyage énergétique parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont venues se déposer là. En général, dans les fêtes de famille, même si on est très heureux d'être ensemble, il y a plein de choses qui se déploient. Donc voilà, il y a des moments clés un petit peu comme ça dans l'histoire de notre maison où venir faire un nettoyage énergétique, ça va permettre de ramener de l'apaisement et j'ai envie de dire, de changer la fréquence énergétique du lieu dans lequel on se trouve.
Ok, super, c'est passionnant déjà, rien que ça, c'est super. Est-ce que tu peux justement nous dire en quoi notre environnement intérieur, alors quand je dis notre environnement intérieur, on parle vraiment de notre habitat hein, pour le coup, peut-il influencer notre état émotionnel et mental au quotidien? Alors, tu as commencé un petit peu à y répondre. Mais j'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus dans le concret, parce que c'est vraiment là l'objectif, c'est de montrer justement comment notre intérieur d'habitation, notre lieu de vie, qu'il soit temporaire ou plus constant, on va dire, peut venir influencer justement nos états internes, c'est-à-dire notre état émotionnel, physiologique, mental, etc.
Alors, il y a une chose dont il faut bien se rendre compte, en fait, et on l'oublie souvent. Aujourd'hui, la maison est souvent présentée comme un espace de bien-être, au sens un peu large, et on transcrit ça, on traduit ça surtout en termes d'aménagement intérieur. Donc, on va beaucoup réfléchir, travailler, regarder comment on aménage notre maison. On va se passer du temps sur le choix des matériaux, sur le choix des couleurs, sur le choix du mobilier, etc. Bien avant d'être un espace de décoration d'intérieur, donc on va aller apprécier avec le regard, notre maison, elle répond à des besoins qui sont archaïques. Notre maison, c'est d'abord un espace de sécurité. C'est l'endroit depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, notre maison, c'est cet endroit où on va venir se réfugier. Si on revient vraiment à l'origine, notre maison, c'est la grotte des hommes des cavernes. Hein. Donc c'est vraiment cet endroit-là où on va venir se réfugier, se reposer et se sentir en sécurité, se protéger des aléas extérieurs, se protéger des agressions extérieures. Donc ça, c'est engrammé dans nos cellules. Et aujourd'hui, notre maison continue d'avoir ce rôle-là et j'ai envie de dire, c'est son rôle premier. Il y a cette fonction-là, cette fonction de sécurité et la fonction de repos. C'est-à-dire que notre maison, c'est aussi l'endroit où on va venir se ressourcer. Naturellement, spontanément, c'est l'endroit où on va venir recharger nos batteries. Quand on est fatigué en fin de journée, mais aussi quand on est malade, etc., le réflexe immédiat, c'est je rentre à la maison. Donc ces deux fonctions-là, sécurité, repos, c'est vraiment des fonctions fondamentales, structurelles pour notre maison et souvent on l'oublie. On l'oublie parce qu'on pense à notre maison uniquement en termes de décoration et d'aménagement intérieur. Et ça va être important vraiment d'aller se replonger dans ces deux fonctions fondamentales parce que ça permet de comprendre plein de choses qui vont se jouer chez nous, y compris en lien avec notre confort ou notre inconfort. Si notre maison aujourd'hui, elle peut être esthétiquement parfaite, elle peut être avec une décoration intérieure parfaitement réussie, si ce n'est pas cet espace qui vient nous donner de la sécurité ou qui vient nous permettre de nous mettre au repos, on ne pourra pas se sentir bien chez soi. Donc ça, c'est vraiment fondamental parce qu'on l'oublie totalement et on l'occulte totalement. Et c'est en général pas ce qu'on met en avant quand on est sur un projet d'aménagement ou quand on investit une nouvelle maison. Donc, allez regarder vraiment si ces deux fonctions-là sont honorées chez vous. Est-ce que je me sens en sécurité chez moi et est-ce que je me sens en capacité de venir me déposer et me reposer chez moi. Si la réponse est non, il y a déjà quelque chose à aller regarder à ce niveau-là parce que c'est là que notre maison peut ne pas, quand elle ne répond pas à l'une ou l'autre de ces deux fonctions, c'est là qu'elle peut venir, j'ai envie de dire, nous prendre de l'énergie plutôt que de nous en donner. Et on n'a pas besoin pour ça, en fait, d'aller révolutionner l'aménagement intérieur ou d'aller revoir effectivement sa déco, mais c'est d'aller se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne me sens pas en sécurité chez moi, ou qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne me sens pas en capacité ou en droit de me reposer chez moi ou de me déposer. En fait, la maison, quand on rentre dans sa maison, il y a naturellement, je vous invite vraiment, et tous tes auditeurs, à faire l'exercice, mais en rentrant dans la maison, d'aller sentir cette espèce de soupir de soulagement qui se pose à l'intérieur. Souvent, c'est imperceptible. Si on n'y prête même pas attention, donc on s'en rend même pas compte. Mais il y a vraiment ce soupir, cet moment où on fait « Ah, enfin! Enfin, je suis chez moi. Enfin, je suis dans ma maison. » Ce soupir-là, ce moment-là, c'est un espèce de moment de grâce, en fait, dans votre corps, à l'intérieur de vous. Ça vient dire « Tu peux te détendre. » Tu peux lâcher le masque, celui que tu tenais à l'extérieur quand tu étais dans le monde. Là, à cet endroit-là, tu peux lâcher la tension et tu peux vraiment, parce que tu es en sécurité, tu vas venir te reposer et te déposer à cet endroit-là. Si quand vous rentrez dans votre maison, c'est un espace qui est agressif, parce qu'il y a des tensions avec votre conjoint, parce qu'il y a des tensions avec vos voisins, parce que vous avez été cambriolé récemment et que vous ne vous sentez pas en sécurité. Pour plein de raisons. Il peut y avoir voilà, plein de choses qui font qu'à cet endroit-là, vous ne sentez pas. En fait, au lieu d'avoir ce soupir de soulagement quand vous entrez chez vous, vous allez avoir plutôt une sensation de crispation ou d'appréhension. Hein. Vous avez du mal à rentrer chez vous, vous n'avez pas envie de rentrer chez vous. À ce moment-là, effectivement, c'est un indicateur que la maison ne remplit pas ses fonctions-là. Donc, ça, c'est vraiment. Ces deux fonctions, elles sont fondamentales et souvent, en fait, on est déjà projeté, on se projette ailleurs sur comment ma maison, elle peut me donner de l'énergie ou me prendre de l'énergie. Ces deux fonctions fondamentales sont vraiment à réexaminer. C'est le premier step, j'ai envie de dire, qu'il faut aller regarder pour se demander si on est vraiment bien chez soi.
Donc sécurité et repos, moi ça me fait penser à nos besoins primaires, hein, très clairement. Donc, et puis ça me fait aussi directement penser au fonctionnement de notre système nerveux qui, s'il ne se sent pas en sécurité, va envoyer un message d'alerte, un message de danger qui va faire qu'on va être mobilisé justement pour combattre ou pour fuir. Et donc c'est effectivement si notre habitat ne nous amène pas cette sécurité-là, c'est évident, j'ai envie de dire, qu'on soit activé et qu'on soit justement sur des comportements et des agissements qui finalement ne nous permettent pas d'être serein ou sereine au quotidien. Du coup, j'ai envie de te demander, en matière de lecture énergétique des lieux, dans quelle mesure les énergies individuelles des personnes sont-elles prises en compte? Est-ce qu'elles sont prises en compte déjà et de quelle manière?
Alors, quand je fais une lecture énergétique des lieux, en fait, c'est vraiment, c'est d'abord avec le lieu que je vais travailler. C'est différent en Feng Shui. Quand je fais une expertise Feng Shui, là, je travaille directement avec l'énergie des personnes parce que ce qui va être intéressant d'aller chercher, c'est comment la maison, puisqu'on parle des maisons, comment la maison peut être un soutien pour ses occupants. Donc, ça va être toujours en lien avec les occupants, ça va être toujours en lien avec la fréquence énergétique des occupants, mais ça va être aussi en lien avec les projets des occupants. Si demain, tu as un projet professionnel, on ne va pas aller activer les mêmes énergies que si tu as une santé défaillante et que tu as besoin d'être soutenu sur la santé. Ou si tu as un projet sur une rencontre amoureuse, on ne va pas non plus déployer ou soutenir les mêmes énergies. Donc ça, pour l'expertise Feng Shui, c'est vraiment en lien avec les occupants. Ensuite, quand moi je fais faire une lecture énergétique, là c'est un autre travail, c'est-à-dire que je vais à la rencontre de la maison et je vais, mais c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un tête-à-tête avec elle. Je vais regarder, je vais engager une conversation, alors ça se passe au niveau subtil, hein, mais je vais engager une conversation avec elle pour aller voir effectivement quel est son potentiel. C'est-à-dire que chaque maison, il n'y a pas deux maisons qui se ressemblent en fait. Ça, c'est vraiment, aujourd'hui, au fil des années, je peux l'affirmer avec toute la certitude que je peux avoir aujourd'hui, mais c'est que je n'ai pas rencontré deux maisons identiques. Il y a autant de diversité de profils de maisons qu'il y a de diversité de profils d'individus. Chaque maison a une personnalité qui est très, très singulière. Et donc, il y a des maisons qui vont être très, j'ai envie de dire, très ancrées. Il y a des maisons qui vont être beaucoup plus délicates, il y a des maisons qui vont être plus fragiles, il y a des maisons qui vont être dans l'émotion, il y a des maisons qui vont être plus joyeuses que d'autres, il y a des maisons qui vont être plus légères que d'autres, il y a des maisons qui vont être plus charismatiques. que d'autres, voilà. Et donc, en fonction de la fréquence énergétique que je rencontre sur chaque lieu, ben, ces maisons-là, elles ont aussi des besoins. C'est-à-dire qu'une maison qui a, j'ai envie, ce que j'appelle les maisons qui ont du coffre, elle va avoir besoin, par exemple, elle va plus avoir besoin de mouvement à l'intérieur, donc d'accueillir des familles ou d'accueillir du monde, plus qu'une maison qui va être sur une énergie beaucoup plus délicate, beaucoup plus fine, beaucoup plus légère, etc. Donc, fréquence énergétique de la maison va aussi donner des informations sur ce dont elle a besoin pour être dans son plein potentiel. Et donc, à ce moment-là, on peut regarder, effectivement, on va regarder ensemble si ce que les occupants déploient dans la maison correspond aussi à la fréquence énergétique de la maison pour qu'elle puisse donner tout son potentiel et vraiment venir soutenir les occupants. Et donc à ce moment-là, il y a un dialogue à trois, c'est là que le relais se prend avec les occupants. Il y a un dialogue à trois qui s'instaure pour aller voir si, j'ai envie de dire, ça fait bon ménage entre la fréquence énergétique des occupants, les intentions qu'ils ont à cet endroit-là, et ce que la maison propose et ce que la maison permet et ce qu'elle ne permet pas. Parce que parfois, on essaie de vivre des choses dans un lieu qui n'est pas fait pour ça. Ça se passe souvent dans des bâtiments, par exemple, qui ont été rénovés et qui sont passés d'une fonction, par exemple, agricole à une fonction d'habitat. Le bâtiment est sorti de terre avec une finalité précise et donc il avait une fréquence énergétique originelle qui était complètement différente de celle qu'on lui demande d'incarner aujourd'hui. On lui demande d'accueillir une famille et de déployer une énergie qui n'était pas celle de son origine. Donc, c'est comment est-ce que ce lieu-là peut évoluer, comment on prend en compte ses capacités aussi pour ne pas lui demander l'impossible et aller au contraire, aller vraiment s'appuyer sur ses ressources. Les lieux sont pleins de ressources, sont pleins de potentiel et souvent, en fait, on est à côté de la plaque tout simplement parce qu'on ne voit pas le potentiel de ces lieux-là et qu'on voudrait absolument y vivre certaines choses alors que le potentiel est ailleurs.
Ok, ce que je comprends en fait, c'est qu'effectivement, il y a une fréquence énergétique de base en fonction de l'objectif de l'habitat initialement, en fait, de sa fonction initiale. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité d'amener de nouvelles énergies pour faire que quand on transforme l'habitat de sa fonction d'origine à une nouvelle fonction, il y a des possibilités en fait d'amener des nouvelles énergies pour permettre finalement de bien vivre dans ce lieu-là qui au départ n'était pas fait pour. C'est bien ça?
Oui, alors ce que tu évoques là, ça rebondit sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure dans le cas d'une rénovation, par exemple. Mais c'est vrai dans tout type de lieu. En fait, quand on emménage dans une nouvelle maison, c'est une rencontre. Et là, c'est vraiment, j'amène moi un peu un changement de paradigme là-dessus, c'est-à-dire que au lieu de penser qu'on arrive dans un lieu qui est inerte, qu'on va emménager et donc qu'on va décorer aussi. En fait, c'est vraiment de considérer que on est en train de rencontrer un espace et donc une fréquence énergétique comme on rencontrerait un individu. C'est exactement la même chose qui se passe. Et donc, quand on rencontre un individu, on prend des précautions en général. On va prendre le temps de la rencontre, on va prendre le temps de s'apprivoiser, on va prendre le temps de se découvrir, on va prendre le temps de se ressentir. Que ce soit une rencontre amicale, amoureuse ou professionnelle, on est toujours dans il y a un temps d'approche. Et on se rend compte aussi parfois qu'on a des idées préconçues sur la personne et qu'en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on avait pensé. Donc, la rencontre va permettre d'aller plus loin dans la découverte de l'autre. Avec un lieu, c'est exactement la même chose, sauf qu'on n'a pas, nous, on n'a pas appris à aller rencontrer un lieu de cette façon-là. Mais quand on rencontre un lieu, quand on investit une nouvelle maison, ça va toujours être d'avoir la curiosité de qu'est-ce que je vais pouvoir déployer à cet endroit-là. Vraiment de s'ouvrir sur ce questionnement-là, parce que rien n'est acquis, en fait. On ne transpose pas une vie d'une maison à une autre, en fait. Quand on change de lieu, en fait, on change de partenaire. Notre maison, c'est notre partenaire. On y vit, pas 24 sur 24, mais pas loin, hein. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de télétravail, il y a beaucoup de personnes qui travaillent depuis chez elles aussi. Donc, on passe de plus en plus de temps dans nos maisons. Et le lien qui se tisse avec notre maison, c'est bien au-delà d'un simple espace dans lequel on vient se poser. C'est un vrai lien de partenariat, de co-construction. C'est-à-dire que ce lieu-là va venir nous soutenir ou nous affaiblir dans tous nos projets, dans tout ce qu'on va déployer dans notre vie. De considérer notre maison comme une partenaire et non pas juste comme un espace neutre, ça permet aussi d'aller regarder son potentiel. Et donc, on va transformer, de toujours regarder notre maison, non pas sous l'angle du manque. Elle n'est pas assez grande, elle n'est pas assez lumineuse, elle est trop humide, elle n'est pas assez ceci. Et ça, c'est très, très humain comme façon d'appréhender le monde et l'environnement, mais c'est toujours d'aller regarder, OK, je vis à cet endroit-là, ce lieu-là est mon partenaire de vie, qu'est-ce que je peux y déployer sereinement, à quel endroit est-ce que je me sens le mieux dans ma maison, où est-ce que je prends de l'énergie, où est-ce qu'au contraire, je sens que j'en perds. Voilà. Et c'est d'aller regarder vraiment avec beaucoup de douceur et bienveillance tout ce qui est là en termes de potentiel. Et c'est là en fait que la magie opère. Parce que là, on commence à co-construire avec le lieu et non pas à faire en dehors avec un lieu qui potentiellement serait quelque chose de complètement extérieur à nous-mêmes.
Ce qui est hyper intéressant en fait dans ce que tu dis, c'est que finalement, c'est de regarder son habitat en conscience. C'est de mettre de la conscience finalement sur l'environnement dans lequel on vit de nombreuses heures. Et ça, c'est une nouvelle éducation finalement à avoir parce que pendant longtemps, effectivement, et même encore maintenant, on n'a pas forcément ce regard en conscience de ce que ce lieu-là peut nous apporter en bénéfique ou en consommateur de notre propre énergie. Justement, alors j'ai bien compris que sécurité et repos, c'était les deux mots d'ordre de notre habitat, mais est-ce qu'il y a des signes courants qu'un lieu peut présenter qui montrent qu'il y a un déséquilibre énergétique? Et si oui, comment on peut identifier justement ces signes et comment on peut identifier finalement qu'il y a un déséquilibre énergétique qui va venir plutôt que de nous soutenir comme on le recherche pour qu'on se sente bien, va plutôt venir puiser dans notre énergie?
Oui, bien sûr, il y a des signes en tout cas qui peuvent nous alerter. J'ai envie de dire, le premier, c'est si on a du mal à rentrer chez soi. Si on a de la réticence à rentrer chez soi. On est tout le temps en train de fuir et qu'il y a ce petit serrement au cœur là dont je parlais tout à l'heure dans le plexus, le soir, au moment de rentrer dans sa maison. Donc là, on peut effectivement s'interroger. C'est qu'il y a probablement, en tout cas, il y a cet espace de sécurité ou cet espace de repos n'est pas là. Donc ça, c'est vraiment un signe qui est assez manifeste. Il y a un autre signe qui est à l'opposé, j'ai envie de dire, c'est si on a du mal à sortir de chez soi. Et ça, très difficile souvent à entendre parce que on s'imagine que quand on a du mal à sortir de chez soi, c'est parce qu'on se raconte l'histoire que c'est parce qu'on y est bien. Et que donc, que tout va bien, au contraire. Donc, on se raconte l'histoire que je suis tellement bien chez moi, je suis tellement dans un cocon douillet, je suis tellement confortable à cet endroit-là que j'ai plus envie de sortir, mais ma maison est merveilleuse. C'est un non-sens total. Nos maisons ne sont pas faites pour nous enfermer, en aucun cas. En fait, nos maisons, ce sont des partenaires, je l'évoquais tout à l'heure, mais ce sont des partenaires qui sont là pour nous soutenir dans nos projets de vie. Donc, nos maisons sont là pour nous donner de l'énergie, pour nous apporter la vitalité dont on a besoin, pour ensuite porter nos pas dans le monde, pour ensuite porter nos actions dans le monde. Donc, si on a tendance à se replier chez soi, à s'isoler, à se couper de toute vie sociale, à se couper des autres, sous prétexte qu'on est super bien à la maison, c'est que c'est dissonant aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Il y a des maisons qui nous maintiennent captifs, hein, faut le savoir, il y a des maisons qui nous enferment, mais nous aussi, on peut se raconter des histoires là-dessus. En se disant, ah ben c'est parfait, j'ai pas, je, aujourd'hui dans ma vie, j'ai pas envie d'aller à la rencontre des autres, mais je me raconte l'histoire que je suis vraiment bien chez moi et que c'est très bien comme ça. Et des années peuvent se passer comme ça. Hein, moi, je le vois souvent avec des personnes qui se sont laissées prendre au piège de cet intérieur de la cage dorée, en fait. Voilà. Et qui se sont. Donc, ça, c'est vraiment un deuxième signe qui est important. Et puis le troisième signe, j'ai envie de dire, c'est si vous sentez que vous êtes en perte d'énergie quand vous êtes chez vous, alors que dès que vous êtes à l'extérieur, vous avez au contraire, vous retrouvez de la vitalité. S'il y a quelque chose qui vient de la tristesse, par exemple, qui vient systématiquement quand vous êtes chez vous, et que ça j'ai envie de dire, ça switch directement dès que vous êtes à l'extérieur, là, il y a effectivement un regard, une attention particulière à porter sur votre maison et sur ce qui s'y passe. Parce que là, ça peut être effectivement des signes de dysfonctionnement. Mais je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'en fait, nos maisons sont toujours, dans cette rencontre qu'on a avec elles, il y a toujours un potentiel à aller regarder. Et donc, c'est vraiment ça qui va être important d'aller explorer. C'est-à-dire que même quand notre maison, quand on constate que notre maison nous tire vers le bas, qu'elle nous prend de l'énergie ou qu'elle ne remplit pas ses fonctions, c'est de jamais aller la pointer du doigt dans ses dysfonctionnements, mais d'aller la regarder en disant, OK, qu'est-ce qui est là à cet endroit que je n'ai pas vu? Ou qu'est-ce que. Encore une fois, c'est comme une rencontre, c'est-à-dire que qu'est-ce que je n'utilise pas dans ce qui est là à portée de main? Ou qu'est-ce que je demande à ce lieu-là alors qu'en fait il y a autre chose à venir y chercher et à venir y déployer. Donc c'est vraiment toujours regarder son espace de vie sous l'angle du potentiel et non pas ni du manque ni des dysfonctionnements qu'on serait venu coller par-dessus.
C'est passionnant. Moi, je vois bien hein, l'impact que mon environnement personnel peut avoir sur moi. Par exemple, tu vois, alors c'est rarement très en bazar, mais ça peut arriver pour des raisons X ou Y, par exemple de travaux, de choses comme ça, ou parce qu'à un moment donné, j'ai priorisé sur d'autres choses, donc j'ai des tâches qui se sont accumulées et qui va faire qu'à un moment donné, moi, je vais me sentir, tu vois, pas très bien. Je vais sentir qu'il y a une espèce de pression et qu'il va suffire finalement que je débarrasse l'espace finalement pour me sentir mieux. C'est un peu aussi l'idée, tu sais, ce fameux ménage de printemps qu'on peut faire parce que on a accumulé des choses et finalement, ben, notre tête, elle est aussi remplie que l'espace dans lequel on vit. Est-ce que ça a un lien avec tout ce que tu nous expliques depuis tout à l'heure, justement sur ces énergies, ou est-ce que là, c'est moi des histoires que je me raconte?
Les deux, mon capitaine. Il y a bien sûr toutes les histoires qu'on se raconte, c'est-à-dire que c'est toujours intéressant d'aller regarder quelles sont les émotions et les pensées qu'une situation, par exemple du bazar, tu vois, accumulée, vient susciter chez nous. Souvent, le bazar est un super sujet et je sais que c'est un sujet qui est touchy pour beaucoup d'entre nous. Parce que c'est un sujet, j'ai envie de dire, qui nous dépasse. Il y a beaucoup d'injonctions sociales, sociétales autour de cette thématique-là. Dans toutes les images qu'on nous renvoie de la maison idéale, hein, que ce soit sur le web, dans les pubs ou dans les grandes surfaces d'ameublement, la maison est toujours impeccablement rangée. Et on nous transmet aussi, j'ai envie de dire, de mère en fille, cet héritage-là. Même si aujourd'hui on est dans des conceptions beaucoup plus modernes et contemporaines aussi de la place de la femme dans le foyer, le transgénérationnel est très 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 présent et on continue de véhiculer donc ces injonctions, ces espèces de diktats qui sont si ma maison n'est pas bien rangée, c'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc c'est vraiment d'aller faire la part des choses. Il y a tout un travail effectivement pour faire la part des choses entre ce qui relève vraiment de notre besoin profond. Et de tous ces conditionnements extérieurs qui viennent provoquer chez nous des pensées et des émotions qui peuvent être de la culpabilité, de l'incompréhension, de la colère, de la honte. Enfin, il y a tout un chapelet comme ça d'émotions qui se déploient autour de la question du bazar et du rangement, qui sont pas forcément en lien avec le bazar lui-même, mais qui sont vraiment en lien avec tous ces conditionnements qu'on véhicule autour. Parce que si on regarde le bazar, en fait, alors je ne parle pas de la saleté, ça c'est autre chose, c'est de l'énergie basse. Mais le bazar, il y a des personnes qui sont très très bien dans un environnement, j'ai envie de dire chaotique, dans un environnement qui est plein. Moi, je ne suis pas du tout une adepte du minimalisme, alors que c'est ce qui est véhiculé aujourd'hui dans beaucoup par beaucoup de professionnels de l'habitat et de l'aménagement intérieur. Je trouve que cette injonction-là, qui nous dit aussi à quoi devrait ressembler notre intérieur, est assez violente finalement à recevoir et à intégrer, c'est-à-dire qu'on nous impose aussi, on nous dit comment devrait être l'endroit dans lequel on va se sentir bien. C'est tellement personnel que, en fait, c'est quelque chose, c'est à chacun de nous de le définir. Mais là, ça va nous demander de nous affranchir aussi de tous ces diktats extérieurs qui nous imposent un modèle à suivre. Et donc, cette notion de ménage de printemps, etc., c'est aussi des choses qu'on nous amène hein, tout doucement sur le fait de ben voilà, si tu es dans l'inconfort, c'est parce que ta maison est dans le bazar ou range ta maison et tu iras mieux après. Mais en fait, moi, je vois bien avec les personnes que j'accompagne aussi et mes clientes que souvent on range une fois Et en fait, l'inconfort revient derrière parce que l'inconfort ne se situe pas à cet endroit-là. Donc oui, on va se faire plaisir 5 minutes, on va se sentir bien chez soi 2, 3 jours, mais le bazar va revenir et la culpabilité qui va avec et les pensées négatives qui vont avec, etc., etc. Donc c'est vraiment à un autre niveau que ça se situe. Et encore une fois, il y a des personnes qui se sentent très très bien et qui sont pleines de vitalité, qui sont pleines d'énergie dans un environnement qui est un bazar, soi-disant. Donc c'est vraiment d'aller regarder ça. Il n'y a pas de modèle à suivre, en fait. À mon sens, il n'y a pas de modèle à suivre. C'est vraiment à chacun, et c'est aussi l'objet de mes accompagnements, mais à chacun d'aller identifier l'environnement qui lui correspond, l'environnement qui lui convient. Ça devient un petit peu plus acrobatique quand on vit à plusieurs sous le même toit, mais c'est vraiment, on est tous très, très différents là-dessus. Certaines personnes vont être créatives dans du bazar, d'autres vont avoir besoin d'être dans un environnement complètement épuré. Et c'est complètement fou de penser que ça puisse être modélisable, que ça puisse être universel. Donc, aller dire à qui que ce soit à quoi doit ressembler son intérieur, c'est juste un non-sens, en fait.
Moi, je comprends tout ce que tu dis, je le vois bien chez moi, hein. On a tous une façon de fonctionner qui est différente. Moi, je vois bien, hein, l'énergie que ça me prend quand mon environnement n'est pas en adéquation avec moi, en fait. Et je vois bien comment ça peut être consommateur d'énergie chez moi. Et parce qu'aujourd'hui, j'ai pu l'observer et que je le sais. Du coup, je mets en place les actions qui vont bien, qui vont me permettre justement de ne plus être dans ce cycle de je consomme de l'énergie alors que finalement, en faisant 2, 3 petites choses, ça va me permettre de me remettre dans des énergies beaucoup plus hautes. Mais ça, encore une fois, tu vois, Valérie, je pense que c'est un apprentissage d'apprendre à se connaître et d'apprendre à s'observer dans différentes circonstances et dans différents environnements. Est-ce que ça, justement, c'est quelque chose que tu amènes, toi, dans tes accompagnements, le fait que la personne apprenne à s'observer, à observer son énergie dans l'environnement dans lequel elle se situe?
Oui, bien sûr, que ce soit dans mes accompagnements individuels, mais aussi dans mon programme Ma Maison Sérénité, en fait, qui est mon programme phare. C'est un programme qu'on fait sur 3, 4 mois et en groupe, et on va avoir un travail d'observation en continu, en fait. On ne bouge pas une petite cuillère dans la maison sans avoir fait ce travail d'observation. Et en fait, c'est toute la première partie du programme, toute la première moitié du programme, donc on y consacre vraiment un temps important. Ça va être sur la conscience qu'on met sur notre environnement, sur la relation qu'on a tissée avec notre maison et sur comment tous les gestes qu'on pose au quotidien dans notre environnement. Et on va observer aussi ce que font les autres membres du foyer. Et là, il y a des choses hyper intéressantes qui se dégagent, en fait, parce qu'en étant dans ce travail d'observation, en rongeant son frein pour ne pas transformer l'espace, pas encore, mais en étant dans ce travail d'observation, il y a plein de choses qui vont apparaître. Plein de choses aussi dans les relations entre les membres du foyer. Comment l'espace favorise certaines relations alors qu'elle ne soutient pas d'autres types de relations. Qu'est-ce que les autres font dans l'espace? Et en fait, c'est comme tout à l'heure, je disais qu'on ne prêtait plus attention, on ne prêtait pas attention à la maison, mais souvent, on prête plus attention, la même attention non plus aux personnes qui nous entourent, à notre conjoint ou à nos enfants, c'est-à-dire qu'on est dans le quotidien et il n'y a pas cette lecture sensible de l'autre, de comment il occupe l'espace, de comment il rentre à la maison. Est-ce qu'il y a des gestes qui se répètent chaque jour? Est-ce qu'il y a une façon? Est-ce que mon enfant prend son goûter toujours au même endroit, puis l'autre enfant, lui, va faire autrement? Et d'aller regarder comment nos enfants font leurs devoirs à des endroits différents dans la maison. Tiens, il y en a un qui va jouer au sol, alors que l'autre préfère jouer toujours sur la table. Donc, il y a vraiment, en fait, c'est propre à chacun. Il n'y a rien qui est universel. Et souvent, d'aller mener ce travail-là d'observation, ça va permettre de mettre de la conscience sur nous, sur les autres qui nous entourent, et sur l'espace qui est là, et combien cet espace joue, j'ai envie de dire, non pas un rôle, mais vraiment est acteur de tout ce qui s'y déploie aussi, et comment il y a des endroits qui sont délaissés parfois, il y a des endroits qui sont surinvestis. Les disputes partent toujours du même endroit, par exemple. Voilà, c'est d'aller regarder tout ça. Et donc, on prend vraiment un temps précieux. pour aller poser tous ces éléments-là. Et c'est uniquement quand on a fait ce travail-là, qu'il y a eu cette conscience qui est mise vraiment sur l'espace qui est là et tout ce qui nous entoure, qu'on peut commencer à réaménager l'espace parce qu'on va le faire complètement différemment. On ne va pas le faire d'après des critères esthétiques qui vont être validés uniquement par notre regard et par nos yeux. On va le faire avec notre ressenti et la conscience que l'espace soutient ou ne soutient pas certains de nos projets, en fait, tout simplement.
Super intéressant, encore une fois. Est-ce que tu as un partage, un témoignage à nous partager sur un retour de client qui va illustrer l'impact positif justement de tes différentes pratiques sur leur bien-être, avec par exemple un point de départ où ils étaient d'une certaine façon et un point d'arrivée qui montre finalement toute la transformation ou le chemin de transformation que ça a généré?
Bon, j'aurais beaucoup d'exemples à te partager. Là, ce qui me vient, c'est l'exemple de Sandrine que j'ai accompagnée l'année dernière. Et on est toujours en lien aujourd'hui. Et je suis vraiment touchée parce qu'elle m'envoie des messages très, très régulièrement. Et en fait, Sandrine, elle vivait dans une maison HLM, en fait, qu'elle avait investie après une séparation il y a une dizaine d'années. Et cette maison, elle l'avait investie de façon provisoire, donc elle était vraiment en désamour avec cette maison, vraiment, et elle ne l'avait jamais vraiment investie. Il y avait toujours des affaires qui n'étaient pas déballées. Elle était toujours prête à partir, en fait. Et son intention, quand elle est venue vers moi, c'était de l'aider à changer de maison. Et en quelques mois, en fait, elle avait vécu des choses douloureuses aussi dans cette maison-là, donc c'était une fin de non-recevoir, en fait. Et en quelques mois, sa perception a complètement changé. Complètement. Elle a complètement switché et en fait, c'est pas tant son passé qui a été revisité, c'est vraiment elle a appris à voir le potentiel de cette maison-là et à quel point elle ne s'était pas appuyée sur cette ressource en fait tout au long de ces années. Donc elle a réinvesti l'espace différemment. J'ai envie de dire ça s'est fait avec des choses très très imperceptibles. C'est jamais ou c'est rarement en tout cas un réaménagement. J'ai envie de dire très visible. Ça se passe sur des micro-endroits. Une pièce qui peut être réinvestie, deux chambres qui permutent, un espace qu'on ouvre, un meuble qu'on déplace. C'est vraiment et ça va être très, très différent selon les maisons. Mais pour Sandrine, en tout cas, aujourd'hui, y a pas la question du déménagement, en fait, n'est plus qu'un nœud dans sa vie et dans son projet. C'est vraiment si ça se fait, ça se fera. Si ça se fait pas, ça se fera pas, parce qu'en fait, elle est bien chez elle. Donc, c'est plus une finalité, c'est plus un objectif, c'est quelque chose qui peut-être viendra dans sa vie si à un moment donné ça se présente et que c'est opportun dans son projet de vie. Mais j'ai envie de dire, tout s'est déployé dans sa vie. Là où il y avait vraiment un gros, gros nœud de crispation, parce que et souvent c'est le cas, c'est-à-dire que les personnes pensent que si elles déménagent, ça ira beaucoup mieux après. Et donc elles font de leur changement de maison un préalable à leur bonheur. Ça, c'est vraiment important d'aller switcher ça parce que. Tant qu'on n'est pas, on n'impulse pas un changement de fréquence énergétique là où on est, on l'emmène avec soi. On l'emmène avec soi. Donc ça va être vraiment important de faire la paix avec le lieu dans lequel on est pour pouvoir ensuite mieux le quitter ou y rester. Mais aujourd'hui, Sandrine, il y a des changements dans sa vie professionnelle, dans sa vie amoureuse, dans ses relations avec ses proches. Dans ses relations familiales, et dans sa santé. Je veux dire, elle m'envoie en permanence des messages pour me donner des indicateurs sur effectivement son état de santé qui est complètement. C'est une personne qui a complètement changé j'ai envie de dire, de fréquence énergétique pour elle aussi. Et ça, c'est un cadeau merveilleux. C'est vraiment un cadeau merveilleux. C'est-à-dire que c'est pas en allant changer un aménagement intérieur. C'est vraiment en allant changer la fréquence énergétique et en allant percevoir l'environnement complètement autrement, qu'en fait ça a un impact sur notre vie. Quand on travaille sur notre maison, c'est jamais anodin, en fait. On va venir toucher sur toutes les sphères de notre vie. Dans notre maison, il y a toute notre intimité qui se déploie à cet endroit-là. Donc, c'est pas juste un changement de papier peint. C'est surtout pas un changement de couleur de papier peint, en fait. C'est vraiment, on va venir toucher tout ce qui se manifeste dans notre vie, tous nos projets, la façon dont on alimente nos projets, la façon dont on les nourrit, l'énergie qu'on met là-dedans, comment on va se ressourcer, comment on va justement aller chercher cet espace de sécurité à l'intérieur de nous et dans notre maison, comment on se donne les moyens de sortir de notre maison pour rentrer en contact avec le monde, comment on se donne les moyens d'y revenir le soir ensuite. Donc c'est vraiment tout ça qui va venir se déployer. Il y a tout qui se pose à l'intérieur de nous. Quand on travaille à partir de la maison, on vient vraiment chercher un espace de paix à l'intérieur de nous qui va nous permettre de déployer tellement de choses beaucoup plus grandes en fait, beaucoup plus grandes.
Ouais, encore une fois, tout part de nous en fait, par le bout par lequel on veut commencer. En fait, le point de départ, ça reste nous finalement. Après, c'est la façon dont on va avoir envie de travailler la matière en fait. Est-ce qu'on a envie de la travailler avec je sais pas, un psychologue, une psychologue, une psychopraticienne ou comme avec toi sur l'impact de notre environnement, de notre habitat.
Je suis d'accord avec toi sur le fait que tout part de nous. Il y a quelque chose que je voulais rajouter là-dessus parce que ça me paraît, je le vois moi dans mes accompagnements. Travailler à partir de la maison, c'est un déclencheur extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que quand on s'apprête à travailler sur sa maison, on n'a pas toujours cette conscience-là. Qu'on va travailler sur soi, du coup, on y va avec beaucoup plus de légèreté que quand on aborde un travail personnel, un travail de développement personnel ou un travail en thérapie, etc., où là, on a bien conscience qu'on va aller plonger dans des endroits qui sont peut-être nos parts sombres, etc. En général, quand on vient vers moi et qu'on a l'intention de travailler dans sa maison, on ne mesure pas ce qu'il y a derrière. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Parce que ça veut dire qu'on va rentrer, j'ai envie de dire, dans cet univers-là, dans notre univers intérieur, sans même s'en rendre compte. Et c'est là que le changement peut opérer de façon très, j'ai envie de dire, beaucoup plus rapide, parce que il y a pas d'appréhension à y aller. Il peut y avoir une certaine forme d'impatience, mais il n'y a pas l'appréhension qu'on peut avoir quand on va se visiter nous-mêmes ou quand on sait qu'on va se visiter nous-mêmes. Et la charge émotionnelle n'est pas non plus la même. Alors parfois, ça surprend. Ce qu'on va aller toucher du doigt quand on travaille sur la maison, on est très surpris de ce qui vient, de ce qui émerge, de ce que ça fait remonter. Mais en même temps, une fois qu'on est dedans, ben on y est. Et donc, on fait le travail avec énormément de curiosité. Moi, je le vois chez toutes les personnes que j'accompagne, il y a toujours ce truc-là, c'est tellement incroyable de ce qui sort, de ce qui émerge quand on vient. Alors que je suis venue juste travailler sur ma maison, il y a ce juste qui en dit long. Je suis juste venue travailler sur ma maison et il y a tout ça qui remonte. Et du coup, il y a une espèce d'émerveillement sur ce qui est en train de se passer. Et là, il y a vraiment un espace de transformation qui est très, très, très puissant et que moi, je constate tous les jours chez les personnes que j'accompagne.
C'est pour ça que j'ai à cœur vraiment de mettre en visibilité différentes pratiques parce que, en fait, il n'y a pas une pratique qui répond aux besoins de tout le monde. Ça va être en fonction de chaque individu. On a notre singularité et on a pour certains besoin d'y aller par des biais qui ne sont pas forcément des biais traditionnels. Et puis pour d'autres, c'est plutôt la voie directe qu'ils ont envie de prendre. Donc voilà, c'est tout à chacun de faire son choix. Et je suis comme toi, je suis toujours émerveillée de tout ce qui peut ressortir d'un accompagnement avec une personne qui vient dans un but au départ. Et puis finalement, même si on va travailler sur ce but, c'est pas directement comme ça qu'on va commencer parce qu'on va observer, nous, en tant que professionnels, qu'il y a d'autres choses qui viennent justement alimenter cet objectif que la personne veut atteindre. Donc, ouais, l'émerveillement. L'émerveillement de nous professionnels aussi, de voir tout ce qui peut émerger de chaque personne. On arrive à la fin de cet épisode. On pourra encore rester des heures ensemble, hein, Valérie, puisque c'est tellement passionnant et j'aurais encore plein de questions à te poser. Mais l'avant-dernière question que je vais te poser, c'est quels sont les conseils ou les recommandations que tu donnerais à nos auditeurs et nos auditrices pour que en autonomie, ils puissent commencer à poser certaines choses pour transformer, eh bien, leur maison un petit peu en sanctuaire, on va dire, de bien-être. qu'on a dit, hein, sécurité, repos, donc c'est un peu notre sanctuaire, notre maison pour notre bien-être. Donc ça serait quoi tes premiers conseils que tout un chacun pourrait mettre en application?
Le premier conseil que je pourrais donner, c'est d'être particulièrement attentif aux mots qu'on utilise pour parler de sa maison. Parce que nos mots traduisent beaucoup de choses et ils donnent aussi à voir une partie de notre inconscient. Mais j'invite tout un chacun à noter à chaque fois que vous parlez de votre maison à quelqu'un ou à vous-même, comment vous en parlez, quels sont les mots que vous utilisez. Et d'être vraiment, ça va être un indicateur sur la façon dont vous percevez votre maison, même au-delà des histoires que vous vous racontez, parce qu'il y a souvent des connotations négatives dans ce qu'on en dit. Et ça va être important de se réapproprier un vocabulaire qui va être beaucoup plus bienveillant vis-à-vis de sa maison, plutôt que de dire elle est trop petite, juste elle fait 50 mètres carrés. Ça, c'est pas du tout la même information. On qualifie pas de la même façon son espace. Donc voilà, ça c'est vraiment un premier conseil que je donnerais, et ça change beaucoup de choses. Le deuxième conseil, c'est vraiment de regarder l'espace. Regardez l'espace avec vos yeux là pour le coup tout simplement, mais prenez le temps quand vous buvez votre café, quand vous buvez un thé, un petit moment de pause, vous êtes à votre bureau. Comme je suis moi en ce moment, et donc de juste de lever les yeux de votre écran et d'embrasser l'espace et de regarder tout ce qui vous entoure en conscience, tout simplement, sans jugement. Il ne s'agit pas d'aller dire c'est bien, c'est mal, mais juste prendre conscience de la lumière qui rentre par la fenêtre, prendre conscience de la hauteur de plafond, prendre conscience d'une araignée qui court dans un coin de la pièce. Tout ça, vraiment, d'aller regarder tout ça sans jugement, juste ce qui est là. Et c'est très compliqué pour nous de ne pas être dans ce jugement permanent. Hein, dès qu'on va tout le temps voir une fissure, il y a du jugement qui va venir derrière. On va voir un grain de poussière, il y a du jugement qui va venir derrière. Donc c'est vraiment d'arriver à se départir de cet automatisme-là pour vraiment juste percevoir le lieu et le regarder pour ce qu'il est. Notre maison, elle est, quelles que soient ses limites et quel que soit son potentiel, à minima, ses quatre murs et un toit. À minima, elle vous abrite des aléas et des intempéries extérieures. Donc, c'est vraiment d'aller mettre cette conscience-là. C'est l'endroit où vous allez vous réfugier et c'est l'endroit où vous allez vous mettre à l'abri quand ça va pas à l'extérieur. Donc, juste prendre cette conscience-là, ça va changer énormément de choses dans votre quotidien.
C'est super ça, ce que tu dis, parce que moi, ça me fait rebondir tout de suite sur finalement le message que j'entends, moi. Donc, ça n'engage que moi pour le coup. Mais le message que j'entends au travers de ce que tu dis, finalement, c'est un peu le message qu'on peut aussi travailler pour nous-mêmes, c'est s'aimer et s'accepter. Tu vois, c'est aimer et accepter finalement l'environnement dans lequel on est. Oui, il y a un petit peu de poussière. Bon, bah, ok, il n'y a pas mort d'homme. Tu vois, c'est un peu aussi se lâcher prise finalement qu'on n'a pas forcément sur lequel on n'a pas forcément travaillé encore et en lien avec nos fameux conditionnements qu'on peut avoir. Donc oui, moi ça me fait rebondir là-dessus, acceptation et amour. Du coup, je suis ravie Valérie de t'avoir accueillie sur le podcast. Et avant de clôturer définitivement cet épisode, j'aimerais savoir si tu as un dernier message à passer à nos auditeurs et nos auditrices.
Voilà, l'exercice du dernier message. Oui, je vais rebondir sur ce que tu disais là il y a 2 minutes. On est très exigeant avec nos lieux de vie, on est très exigeant avec nos maisons. Et en fait, c'est une façon d'être très exigeant avec nous-mêmes aussi, dans ce qu'on transpose à l'extérieur. Et il faut bien se rendre compte aussi que notre maison, c'est une partenaire, mais c'est une partenaire un temps donné. C'est-à-dire qu'on, contrairement à ce qui se passe avec nous-mêmes, on ne pourra jamais se quitter. On est toujours avec nous-mêmes, mais nos maisons sont peut-être sur une relation, on est avec elles dans une relation sur un temps donné. On va passer quelques mois ou quelques années, ou peut-être parfois une vie entière, mais on ne le sait pas, dans un endroit en particulier. Et c'est vraiment de prendre ce qui est là de nourrir cette relation tant qu'on est dans ces lieux-là. Il n'y a pas d'enjeu sur le fait de rester ou de partir. Il n'y a pas d'enjeu sur le fait que ça doit absolument être une réussite. Je vois tellement de personnes s'épuiser en consacrant énormément de temps, d'énergie et d'argent sur leur maison, alors en oubliant de tisser cette relation-là et en oubliant tout simplement de vivre l'instant présent. Donc c'est vraiment, votre maison n'est pas une finalité, c'est pas un objectif, c'est pas une fin en soi, c'est une partenaire qui est là pour vous aider à soutenir et à déployer votre projet de vie. Et ça change tout, d'avoir cette perception-là. Et demain, vous pourrez peut-être changer ce partenariat. Vous irez peut-être vers une autre maison, une qui correspond mieux à ce dont vous avez besoin, parce que vos besoins vont évoluer. Donc, ne vous accrochez pas à vos maisons, n'en faites pas des espaces de souffrance. Faites-en vraiment des partenaires et des alliés. Et vous allez voir que ça va faire une différence énorme dans la façon dont vous allez pouvoir déployer votre vie et vos projets à cet endroit-là.
Super pour ce message, merci beaucoup. Alors, on mettra bien sûr dans la descriptive de l'épisode tous tes liens pour pouvoir connecter avec toi, pour les personnes qui seraient intéressées, pour tu nous as parlé d'accompagnement individuel et aussi de programme. Est-ce que tu peux très rapidement nous en dire deux mots, justement, et puis avant qu'on clôture, et on mettra bien sûr tous ces liens en description de cet épisode.
Je veux dire deux mots sur mon programme.
Sur ton programme, oui, parce que les accompagnements individuels, bah, c'est un peu du sur-mesure, hein, si j'ai bien compris. Et puis, j'ai entendu parler de ton programme aussi, tu en parlais très rapidement tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Et puis, après, on se dira au revoir.
OK. Alors, mon programme Ma Maison Sérénité, c'est effectivement mon programme phare aujourd'hui. Donc, c'est un accompagnement qui est sur 3 à 4 mois et où on va faire cette transformation vraiment pour à la fois faire la paix avec sa maison, mais vraiment réaménager l'espace de façon à ce qu'il soit un soutien pour soi, pour chacun des membres du foyer. Il y a ce qui se joue dans ce programme, c'est bien au-delà de la question de l'aménagement, c'est vraiment une réappropriation de la maison comme un partenaire de vie, un partenaire, un tremplin, j'ai envie de dire. C'est vraiment, il y a des transformations qui sont vraiment phénoménales à cet endroit-là. Là, c'est la 5e édition en ce moment, voilà, et je suis, moi, toujours ébahie par les transformations qui sont là. C'est toujours des situations qui sont très différentes, c'est très féminin en général, c'est beaucoup les femmes qui investissent cet espace-là. Mais voilà, c'est un programme qui est vraiment transformationnel. Dans mes accompagnements individuels, on fait des transformations qui sont bien sûr sur mesure et en fonction des besoins de chacun. Et puis, j'ai des programmes aussi qui sont en complète autonomie, qui vont être beaucoup plus spécifiques. L'un qui porte vraiment sur le moment de transition où on s'apprête à changer de maison. Quand on cherche une nouvelle maison et qu'on est dans l'appréhension totale à l'idée de trouver la maison parfaite, ça c'est le programme Je déménage. Il y a le programme Stop au bazar, justement, où on en parlait tout à l'heure. Cette fameuse question du bazar, donc en quatre webinaires, on va vraiment revisiter cette question-là et faire la paix avec son bazar pour apprendre à ranger autrement sa maison. Et puis il y a un programme que j'aime particulièrement, qui est aussi un coffret de méditation et qui là vient vous apprendre à vous aider, vous soutenir, à tisser ce lien de partenariat avec votre maison, un lien de complicité, un lien de gratitude. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez unique, ce programme en coffret de méditation. Ça fait plusieurs années qu'il existe maintenant et il a un plein succès. C'est mon petit programme chouchou, voilà, qui est vraiment en complète autonomie. Donc, vous pouvez retrouver tout ça effectivement sur mon site web sans problème.
Super, donc il y a de quoi faire, il y en a pour les besoins de chacun, donc génial. Moi, je suis ravie de t'avoir accueilli, Valérie, sur le podcast parce que on peut se dire qu'il n'y a pas forcément de lien entre l'habitat, enfin, au départ, entre l'habitat et finalement nos états émotionnels, nos états psychologiques et même physiques. Et pour autant, il y a un lien direct, on l'a bien vu au travers de tout ce que tu nous as partagé. Donc, ben, je te remercie pour tout ce que tu nous as apporté dans cet épisode. C'était vraiment très, très passionnant. Et puis, bah, écoute, moi, je te souhaite bonne continuation, bonne transformation dans les habitats de tes clientes et puis dans leur transformation personnelle. Et je vous remercie tous de votre écoute et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Ciao, ciao.
Merci à toi, Katia, pour ton accueil. Merci à tous pour votre écoute et j'ai été très heureuse d'être là avec toi aujourd'hui.
Merci Valérie. Au revoir.